Une femme, fichier 3. Le mardi gras, Paul proposa une partie au restaurant. Elles s'acceptèrent. Il courut retenir un cabinet à l'hôtel de Beauvais. Ces dames montèrent en citadine. Pelotonné au fond de la voiture, la main crispée au rideau bleu qui cachait la vitre, Lucie riait d'un rire saccadé dont ses nerfs souffraient. Elle avait peur. Dehors, il gelait. Une couche de verglas couvrait le pavé. Elle s'écria « Si le cheval tombait, dites donc, un accident, un attroupement !» Et elle ajouta, presque tremblante « Ah, c'est délicieux, cette crainte !» Le fiacre s'arrêta. Paul les attendait. Il les mena dans une petite pièce où flambait un joli feu clair. Un canapé en velours rouge l'ornait. Une assiette de pâtisserie, du vin blanc et des liqueurs étaient servies. Ils goûtèrent. Puis Paul s'assit, attira Madame Ferville sur ses genoux et ils se caressèrent en toute liberté. Lucie les regardait curieusement. Il avait enlevé la broche qui fermait le corsage de sa maîtresse et, suivant les contours du cou, il la baisait, à baiser lent et à peine appuyé. « Ça te donne envie ?» dit-il à Madame Chalmin. « Dame, fit-elle, ce n'est pas drôle. » Il se leva. « Allons, j'ai pitié de toi. Mais vrai, il nous manque un quatrième. Dorénavant, j'amènerai quelqu'un. » Elle frémit. « Surtout qu'il soit beau garçon. » Ils burent de la chartreuse. « À tes amours futurs !» s'écria le jeune homme. Elle répondit « Pourquoi pas ?» Et tendant son verre, elle trinqua. Un peu lancé, Paul saisit la taille de Madame Ferville. Leurs bouches s'agrippèrent et soudain, ouvrant une porte, ils disparurent. Elle fut stupéfaite de ce dénouement. Une panique la jeta sur le verrou qu'elle poussa d'un coup sec. Puis, recouvrant son sang-froid, elle sourit de sa frayeur. Aucun danger ne la menaçait. Rassurée, elle arrangea les coussins du divan et s'étendit. Aussitôt, la phrase de Paul retentit à ses oreilles. « Il nous manque un quatrième !» Et elle s'avoua qu'en effet, c'eût été plus complet. Ce désir l'étonna elle-même. Quel plaisir personnel lui eût apporté la présence de cet être ? Seuls tous deux, qu'auraient-ils dit ? Qu'auraient-ils fait ? Elle tâcha de se figurer leurs attitudes respectives. Lui, certes, se fut mis à genoux, et la voix suppliante, il eût imploré ses mains, ses lèvres, des coins de sa chair. Délicatement, il eût tenté de dégrafer sa robe et d'endormir sa pudeur par des mots et par des gestes doux. Mais elle, se serait-elle défendue? Alors, pour la première fois, l'idée d'un amant, trop confuse jusqu'ici pour qu'elle eût à l'envisager, se présenta d'une façon précise à son esprit. Elle ne s'en indigna pas. L'idée tombait dans son cerveau comme dans un terrain merveilleusement préparé. Elle y germa spontanément, grandit et se développa sans effort. Aucun sentiment opposé ne la contraria. Tout de suite, une foule d'excuses assiégèrent Lucie, comme si elle fût déjà coupable. Elle se rappela les révélations de Madame Berchon sur la société rouennaise, ses racontars auxquels l'opinion expérimentée de Parrain devait donner du poids. Toutes les femmes n'avaient-elles pas des amants? Pourquoi seule ferait-elle exception? Elle invoqua l'exemple de Madame Ferville. La maîtresse de Paul semblait heureuse, malgré sa faute. Nul ne la soupçonnait. Qui l'empêcherait, elle, d'employer la même habileté et de garder l'estime du monde? Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Des gens passaient. Et Lucie se demanda « S'il me fallait choisir parmi eux, pour qui me déciderais-je ? » Le premier fut trop vieux, le second trop misérable, les autres trop laids, ou trop gras, ou trop maigres. Elle conclut « Ce n'est pas si facile que l'on croit. » Le souvenir de Lemercier la traversa. Ils continuaient régulièrement leur promenade parallèle et se saluaient avec un sourire affable. Mais les choses en restaient là, soit qu'il n'osa l'aborder, soit qu'il craignit une rebuffade. Souvent, Lucie s'en était irritée. Aujourd'hui, cette froideur la désola. Elle souhaita qu'il fût près d'elle, et elle sentit que si son vœu se réalisait, elle en concevrait une grande joie. Cette certitude jeta une lueur soudaine sur ses pensées. « Je l'aime peut-être » murmura-t-elle. Ses efforts et ses ruses pour ne point faiblir au rendez-vous quotidien, son émoi quand il débouchait au coin du boulevard, l'impression bonne et chaude qu'elle conservait ensuite, tout cela ne témoignait-il pas d'un amour naissant? Madame Ferville et Paul revinrent. Ils étaient graves et là. Leur physionomie exprimait une gratitude immense. Leurs yeux et leurs doigts se mêlaient. Ils parlaient d'un ton recueilli. On s'en alla, à pied, par des rues obscures. Puis Lucie ralentit le pas. Les deux autres marchèrent devant elle, enlacées et tendres. Et elle envia leur bonheur. Le lendemain, elle soigna sa mise, se coiffa d'un chapeau qui lui seyait et partit à la conquête de Lemercier, déterminée à quelque yade ou à quelque signe qui l'encouragea. Elle ne savait guère ce qu'il en adviendrait. Elle ne prévoyait pas les actes successifs où la réduirait l'exécution de son projet. Elle voulait du nouveau et elle s'avançait crânement comme on va vers un péril que l'on a souhaité. Vain préparatif, Lemercier ne parut pas. Elle s'entêta plusieurs jours, parcourut la ville, mais ne put le retrouver. Alors elle se crut un chagrin sincère. Elle s'enferma, pria Paul d'interrompre ses rendez-vous, eut des maux de tête qui la dispensèrent de causer avec son mari, et se construisit une petite souffrance d'amour qui l'occupa durant une semaine. La désillusion terminée, elle s'ennuya. Madame Ferville et Paul avaient contracté d'autres habitudes. Elle perdait ainsi sa principale distraction. Le dédain de l'homme qu'elle avait distingué la déroutait. Elle eut moins de foi dans la puissance de sa beauté. Une période d'abattement suivit son exaltation. Un mois s'écoula, morne. Elle fit ses visites du jour de l'an, mais négligea celles qui l'importunaient. De nombreuses dames se froissèrent. Les Lassalle offrirent un dîner où les Chalmains ne furent pas conviés. Robert en apprit la cause par des amis communs et reprocha durement à Lucie son impolitesse. Vexée, elle s'emporta. « Si tu crois que je vais mendier les invitations de ces créatures-là, ce n'est pas un si beau monde, et c'est vraiment drôle que ce soit mon mari qui m'y pousse. » Il insinua. « C'est à Madame Lassalle que tu fais allusion ?»« Parbleu ! » s'écria-t-elle. « Il n'y a pas de calomnie à prétendre que sa dernière fille n'est pas de Monsieur Lassalle. La chose est publique. » Après un arrêt, elle reprit d'un air entendu. « Du reste, toutes les femmes sont pareilles, sauf les vilaines. Et tu devrais savoir plus gré à la tienne, qui n'est pas mal, de se conduire comme les plus laides. » Il sourit, et la baisant au front, lui dit affectueusement « Toi, tu es une honnête petite femme, et tu le seras toujours. » Cet excès de confiance la mortifia. « Toujours ? Elle serait toujours fidèle à son mari ? Elle ne connaîtrait qu'un homme, qu'une façon d'aimer, qu'une étreinte. S'il existait des voluptés meilleures, elle les ignorerait toujours ? » Robert s'habillait. De son lit, elle le regarda avec une attention malveillante. Elle ne découvrit rien à critiquer. Il ne manquait ni d'élégance ni de désinvolture. Mais elle lui en voulut d'être justement celui-là seul qui pût la posséder. Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas le premier qui lui plut? Et fermant les yeux, elle tâcha de le voir, cet autre, de deviner ses paroles, sa manière d'agir avec elle, de la déshabiller, de la câliner, tous ces détails de l'intimité amoureuse qui la tourmentaient par-dessus tout. Chalmain partit, elle sauta à terre et courut à sa glace. L'admiration absolue qu'elle s'accordait lui montra, là encore, l'insuffisance d'un homme. Elle se contemplait émerveillée, jamais lasse de ce spectacle. Quelle œuvre d'art inspirerait son corps à un peintre ou à un statuaire? Et elle se jugea soudain criminelle de dérober au monde un tel idéal de perfection. « Une femme comme moi, se dit-elle, devrait marcher toute nue. » Les éloges qu'elle pouvait à peine arracher à Robert lui firent hausser les épaules. Ce qu'il lui fallait, c'était l'enthousiasme des foules. Elle souleva le rideau de sa fenêtre au risque d'être aperçue. Puis, se recouchant, elle battit des rêves où des hommes, éblouis de sa splendeur, s'agenouillaient devant elle, les mains jointes, et balbutiaient leur extase en des hymnes d'adoration. Dès lors, son caractère se modifia. Robert dut supporter des mauvaises humeurs inexplicables. Il ne prononçait pas un mot qu'elle ne le contredît. Elle lui infligea des querelles à propos de bêtises et le boudait ensuite comme s'il eût été fautif. Elle rudoyait les domestiques. Il n'était point de jour qu'on ne l'entendît crier dans la maison. Elle fut vraiment malheureuse. Moins d'une souffrance déterminée que d'une absence de joie. Quelque chose lui manquait. Sans vouloir préciser vis-à-vis d'elle-même la nature de ces joies auxquelles elle aspirait, elle en sentait le besoin. Et ce besoin grandissait, devenait une impérieuse nécessité. Elle finit par se l'avouer. Elle souhaitait ardemment une aventure quelconque. Son intrigue inachevée avec Georges Le Mercier ne le prouvait-il pas d'une façon péremptoire? Elle évitait de songer à la possibilité d'un amant, et par une hypocrisie inconsciente, elle appelait soif d'aventure l'irrésistible force qui l'entraînait vers la chute. Elle demandait à se distraire. La vie est triste, fade, il faut l'agrémenter. Ne pouvait-elle trouver, sans faillir, un remède à son mal? Son corps aussi la tourmentait. Elle avait un gros chagrin à le voir si joli. « À quoi me sert d'être bien faite ?» se dit-elle. « Je n'en jouis pas davantage que si j'étais vilaine et difforme. » Et elle eut des remords envers sa chair, comme envers quelqu'un auquel on refuse les satisfactions qu'il mérite. Le dénouement approchait. Le premier homme qui l'eût sollicité l'aurait prise avec autant d'aisance que l'on prend une fille. Elle ne possédait aucune arme pour se défendre contre l'attaque. L'instinctive perversité de son tempérament, les théories de parrain, les exemples pernicieux, l'ennui, la curiosité, avaient accompli leur œuvre dissolvante. Elle ne pouvait se rattacher à rien, ni à son mari aveugle et trop honnête, ni à sa mère trop indifférente, ni à son fils qu'elle n'aimait pas suffisamment, ni à des fermes principes religieux ou moraux. Le vice l'attendait comme un fiancé, comme un maître auquel il faut obéir. Elle était condamnée à l'adultère, et elle ne pouvait pas plus échapper à son destin que ne peut échapper à la mort le criminel désigné par la justice humaine. Elle entrerait fatalement dans l'innombrable tourbe des coupables et des menteuses, comme elle, sans doute, ballottée d'amour en amour, comme elle, abreuvée d'opprobre et de honte, comme elle, promise à d'âpres voluptés et à d'inexprimables écœurements. Aucun homme, cependant, ne se présentait. Alors, ce fut elle qui chercha. Elle chercha parmi les amis que Robert amenait au repas. Elle arborait des peignoirs qui plaquaient ses formes, et comme on s'étonnait de son indifférence au froid, elle déclarait « Et je n'ai que cela sur moi. Au-dessous de la flanelle, c'est la peau. » On ne comprit pas ses avances. Elle chercha autour d'elle, parmi ses relations, au théâtre, au bal. Elle quêtait les hommages, orgueilleuse, confiante de sa valeur et du bonheur dont elle disposait. Elle adopta des mises excentriques et des allures évaporées et copia Madame Berchon, sans atteindre à son bon goût. Avisait-elle un monsieur bien mis, d'aspect convenable, elle avait une envie folle de lui saisir le bras, de l'attirer n'importe où et de lui crier, en arrachant son corsage, « Tenez, regardez, qu'en dites-vous ? » Elle avait un renom de vertu trop solide pour qu'on pensât seulement à lever les yeux sur elle. Nul ne la remarqua. Elle chercha dehors, en pleine rue. Deuxième partie. Chapitre 1. Amédée Richard, fils, commis voyageur en cuir, représentant, pour la Normandie et la Bretagne, d'une importante maison de Paris, inscrivit sur son calepin la commande de M. Barthes, un gros fabricant de chaussures de la rue Potard. Puis il se retira. Au même moment, une jeune femme passait. Il consulta sa montre, ses courses étaient finies, il résolut de se distraire jusqu'au dîner. Il rejoignit Lucie place de la cathédrale et la distança, tout en la dévisageant effrontément. Elle le trouva bien. C'était un homme de 35 ans, grand, fort, d'épaules carrées, de marche lourde, d'ensemble commun. Il portait un chapeau haut de forme et râpé, et un paletot noisette de mauvaise coupe, dont le bas godait, par suite sans doute d'une doublure trop étriquée. Elle ne perçut pas ses défectuosités, le jugeant sur sa figure, qu'il avait correcte et belle. Ses succès parmi les bonnes d'hôtel et les petites bourgeoises l'armaient d'une assurance imperturbable. Au café, en jouant la manille, il affichait des théories de Don Juan qui émerveillaient ses adversaires. « Amédée Richard, fils, disait-on, c'est un casseur de cœur, il a toutes celles qu'il veut. » Et on lui supposait des liaisons avec des dames du monde. Cette fois-ci, cependant, la rapidité de son triomphe l'étourdit. Quand il s'arrêtait, elle le dépassait, puis s'arrêtait à son tour devant les vitrines. Ils parcoururent ainsi la rue de la Grosse Horloge. Au vieux marché, ils s'avançaient côte à côte. Il sifflota l'air de la favorite. Un ange, une femme inconnue. Elle le gratifia d'un regard d'intelligence. Rue de Crône, recourant à son stratagème ordinaire, il visa le bout de l'ombrelle dont elle se servait comme appui et y posa brusquement le pied. L'ombrelle tomba. Mais le manche, un manche japonais d'un travail délicat, se brisa sur le pavé, et Richard n'en put recueillir que d'infimes morceaux. Il se confondit en excuses. Son chagrin semblait extrême. Embarrassée, Lucie affirma « Ça ne fait rien, j'en ai d'autres. » Ah, tant mieux, soupira-t-il comme allégé. Des gens s'attroupaient, elle se remit en route. À peine chez elle, elle gravit rapidement l'escalier et ouvrit sa croisée. Il attendait, la cigarette à la bouche. Elle ôta ses gants, sa capote, sa jaquette et s'accouda sur la rampe en bois. Ils restèrent longtemps ainsi. Lui allait et venait, fumant toujours, pour se donner une contenance. Elle observait son manège. L'ombre descendit. Le soir, avant de se coucher, Lucie écarta le rideau. En face, sous une porte, se dressait une haute silhouette. Un point rouge, lueur de cigare, tremblotait. Cela l'enorgueillit. Le lendemain matin, Richard expédia ses affaires. À 2 heures, il était à son poste. Elle sortit en toute hâte. Le commis voyageur emboîta le pas derrière elle. Par la rue Thiers, elle gagna la rue Jeanne d'Arc. Il faisait doux. Un gai soleil de printemps versait de la joie sur la monotonie des grandes façades symétriques. Tout en bas, une mâture de navire, grêle et gigantesque, fermait la rue amincie. À l'autre extrémité, en haut, c'était un décor de verdure, le mont Fortin, avec des toits rouges parmi les arbres. Elle marchait, agile, heureuse, sans but, évitant de se demander ce qu'elle désirait. Souvent, elle se retournait à moitié et distinguait à quelques mètres d'elle le pardessus noisette de Richard. Mais soudain, en face du palais de justice, la foule, le bruit la gênant, elle se jeta dans une rue transversale et se mit à considérer des photographies à l'étalage d'un opticien. L'espérance mal définie qui la retenait fut trompée. Richard ne l'aborda pas. Elle repartit, déconfite, longea la cathédrale, l'archevêché, aboutit à Saint-Maclou. L'église était vide, propice. Elle s'agenouilla et ses lèvres dirent une prière. Des pas retentirent. Lucie se leva, palpitante, la physionomie digne déjà. Un mendiant lui tendait la main. Elle s'enfuit, repêcha le commis voyageur sur le parvis et le remorqua dans le faubourg Martinville. Longtemps ainsi, ils errèrent, respectueusement distants l'un de l'autre. Elle ne s'expliquait pas cette réserve, inadmissible en ce quartier misérable où elle ne pouvait être reconnue. Au pré-tuileau, elle fit une troisième halte, pareillement inutile. Il n'osait pas. Le souvenir de l'ombrelle cassée le paralysait. Il craignait quelque bévue de ce genre et de paraître maladroit ou grossier aux yeux de cette femme qu'il sentait d'un niveau supérieur au sien et différent de toutes ses maîtresses. Agacée, Lucie reprit sa course. Son désir se précisait maintenant. Elle voulait que cet homme l'accostât et lui déclarât sa passion. Dût-elle le rembarrer vertement? Elle ne voyait pas plus loin que ceci. Des mots échangés, des mots nouveaux pour elle, amusants, flatteurs. Enfin, à la nuit tombante, elle échouait au jardin de Saint-Ouen. Située derrière l'église et la mairie, bordée de rues ouvrières, humide et triste avec ses arbres antiques et l'ombre énorme du monument, le square reste vide en semaine, peuplé de ses statues de bronze et d'une poignée de marmots en haillons. Lucie enfila une avenue de marronniers terminée par une pente rapide. Mais au lieu de descendre, elle revint brusquement sur ses pas, ralentit son allure et croisa le commis voyageur. Il dit d'une voix sourde « Bonjour, madame. » Elle s'arrêta net. « Vous avez à me parler, monsieur ?» Il balbutia « Oui, je suis content d'avoir l'occasion de me faire pardonner. Vous savez, hier, l'ombrelle. » Elle s'exclama comme la veille « Bah, j'en ai d'autres !» Et il redit « Ah, tant mieux !» Ils se turent. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle sourit malicieusement et il fit « Pourquoi riez-vous ? Moi ? Je ne sais pas. » Ils touchèrent à plusieurs sujets, puis se confièrent leurs prénoms. Richard s'écria « C'est exquis ce nom de Lucie, je ne l'oublierai jamais. » Elle, au contraire, le taquina sur le sien, qu'elle jugeait ridicule. Il s'excusa, confus, « Ce n'est pas de ma faute. Mon parrain s'appelait ainsi, Amédée, Amédée le coucheur. » Ils cheminèrent au pied du vieil édifice. La paix religieuse des hautes voûtes semblait suinter à l'extérieur et former autour de l'église une atmosphère de silence. L'envers des vitraux racontait de pieuses histoires un peu obscures. Une cloche sonna, sonna très rapide et très légère, et tout cela devait donner au souvenir que Lucie enregistra une teinte de poésie mélancolique. Richard, cependant, s'enhardissait. Il avait glissé son bras sous celui de la jeune femme, et du doigt, il caressait la chair entre le gant et la manche, et il prononçait d'un ton emphatique « Bien pittoresque, ce vieux Rouen. J'ai exploré aujourd'hui des quartiers que j'ignorais. Ces ruelles étroites, ces maisons branlantes, c'est d'un aspect singulier auquel je ne trouve rien à comparer, et pourtant j'en ai vu du pays. » Elle lui posa la question qu'il souhaitait. « Vous voyagez beaucoup ?»« Moi, tout le temps. Il n'est pas un coin de Normandie ou de Bretagne qui ne me soit familier. » Elle fut ravie. « Ah, vous connaissez la Bretagne ?»« Comme ma poche !» fit-il fièrement. Ils causèrent Bretagne. « Il y a des sites enchanteurs. La nature y est abrupte et porte à la contemplation. » Et il insinua de sa plus douce voix de séducteur. « Il faut être deux amoureux devant de tels panoramas. »« Oh oui !» soupira-t-elle. Et à son tour, elle lui servit deux réminiscences conjugales, son clair de lune à Roscoff et son coucher de soleil à la pointe de Penmark. C'était mon rêve d'aimer quelqu'un dans ce pays-là. Il lui serra le bras, et comme elle parlait de le quitter, « Je vous reverrai, n'est-ce pas? J'ai tant de choses à vous avouer. » Elle repartit simplement, « Demain, ici, à 2 heures. » Elle s'éloigna. Aussitôt Amédée se reprocha sa timidité. Il laissait une mauvaise impression. Pour l'effacer, il courut après Lucie, lui saisit le poignet et le couvrit de baisers en bégayant « Je vous aime, je vous aime !» Le soir, des amis de Robert vinrent fumer une cigarette et faire un whist. Ils remarquèrent la gentillesse de Madame Chalmin avec son mari. « Quel charmant ménage !» dirent-ils en s'en allant. « Ça donne envie de les imiter. » Dans sa chambre, elle continua ses cajoleries. L'accent d'Amédée vibrait encore à son oreille, et elle eût voulu que Robert murmurât comme l'autre « Je t'aime, je t'aime !» Elle eût voulu entendre son intonation spéciale dans les mêmes mots et comparer les deux voix, leur chaleur, leur tendresse, leur tremblement, surtout les sensations produites sur elle. Elle ne réussit pas. Alors, ayant constaté la présence de Richard sous ses fenêtres, elle s'offrit, en se déshabillant, une longue méditation orgueilleuse. « Comme il m'aime, celui-là » songeait-elle. Un tel amour méritait des sacrifices. Elle repoussa les caresses de Chalmin avec une fermeté déconcertante. Elle consacra toute la matinée à sa toilette. Son corps fut l'objet de soins inusités. Pourquoi? Elle n'en savait rien. Son imagination échauffée lui retraçait la scène de la veille, lui représentait les péripéties probables qui se préparaient, mais elle se refusait à une vision plus précise. L'idée de la chute ne la hanta même pas. Avant de partir, elle embrassa son mari, calmement, sans émotion. À l'heure assignée, elle débouchait dans le jardin de Saint-Ouen. Amédée se précipita vers elle, son chapeau de soie à la main, le crâne peu garni, l'air désolé. « Un vrai contretemps. Mes affaires me réclament à Yvetot, une grosse commande. Il faut que j'y sois pour dîner si je ne veux pas que mon concurrent me la souffle. Ma voiture m'attend là, à côté rue de l'église. » Un gamin la surveille. Il reprit haleine et hasarda. « Si vous vouliez, vous m'accompagnerez jusqu'à Marom, à travers la forêt verte, et vous reviendriez en tramway. » Il insista si désespérément qu'elle se rendit à sa prière. Elle le suivit. Il monta le premier, saisit les guides, et n'avisant rien de suspect aux environs, la fit prestement asseoir auprès de lui. Puis, par précaution, il baissa la capote, accrocha le tablier de cuir et ouvrit un immense parapluie qu'elle tint en bouclier devant elle. La voiture s'ébranla. C'était un vénérable cabriolet, haut perché sur ses 4 roues, muni à l'arrière d'un vaste coffre. Du drap bleu, défraîchi et crevé à divers endroits, capitonnait l'intérieur. Les ressorts étaient durs, et l'on sautait de pavé en pavé. Ils escaladèrent la rue de la République et la rue du Champ des Oiseaux. Amédée conduisait rondement. Le cheval, une grande bête efflanquée, au poil roux, à l'arête du dos tranchante, trottait par enjambées énormes qui secouaient les harnais et les brancards. En quelques minutes, ils atteignirent l'octroi. Lucie ferma son parapluie et s'écria « « Vous avez un rude cheval !» Il s'épanouit, et modestement, « Oui, c'est un canasson solide, et je ne le presse pas. Sans cela, rien que le bruit du fouet, et il va comme le vent. Ah, nous avons brûlé la politesse à plus d'un client, n'est-ce pas, Bichon ? Et se levant à demi, il tapota la croupe osseuse de l'animal. La côte serpentait au creux d'un vallon entre deux haies touffues. De loin en loin, quelques fermes montraient son toit de chaume, ses poutres noires, et au milieu de la cour, une niche où des chiens aboyaient. Des vergers passaient, plantés de pommiers respectables, tordus, bossus, étayés, la tête neigeuse de fleurs. Des prairies de marguerites défilaient. Au sommet des collines, sur le bleu du ciel, des arbres affectaient parfois une forme suggestive. Ils s'en amusèrent. Et Richard, ayant apaisé l'ardeur de Bichon par des « Oh là ! Oh là !» et de petits coups de rein progressifs, désigna du bout de son fouet deux arbustes penchés l'un vers l'autre, les branches entrelacées. « Ne croirait-on pas qu'ils se bécotent ?» La route était déserte. « Si vous étiez bonne, dit-il, nous ferions comme eux. » Il lâcha les guides et lui entoura la taille de son bras. Elle ne résista pas, curieuse. Qu'allait-il demander ? Et elle se pelotonnait au fond de la voiture. Il l'attira d'un mouvement fort et continu. Leurs épaules se touchèrent. Alors elle frissonna, de peur et aussi de joie. Elle eut envie de se débattre, et en même temps elle souhaitait qu'il entreprît davantage encore. Lui, la face rouge, cherchait en vain des mots d'amour. À la fin, il modula simplement « Oh, Lucie, ma Lucie, combien je vous aime !» Il lui baisa le front, puis, comme elle se taisait, la joue, puis la bouche. Elle tressaillit. L'image de Robert la traversa, sans cependant lui suggérer rien de pénible ou d'agréable. Amédée geignait. « Et vous, méchante, vous ne m'embrassez pas ?» Elle répondit par un baiser. Un bruit de voiture les sépara. La côte terminée, ils franchirent une large plaine et entrèrent dans la forêt. Le chemin contournait la maison du garde et se déroulait ensuite en ligne droite, à perte de vue, solitaire. Amédée mit son cheval au pas. Ils recommencèrent leurs caresses en toute sécurité. De chaque côté courait un talus garni de fourrés épais, que çà et là dominait la masse d'un chêne. Puis il y eut des échappées sur de lointaines profondeurs, rayées de grands troncs lisses de hêtres. Et l'on pouvait voir aussi, dans les taillis, la fuite vers un point de soleil, de sentiers romanesques, pareils à des tunnels de verdure. Mais eux ne regardaient rien. Et ils ne disaient rien non plus. Les lèvres unies, ils n'osaient bouger. Non qu'ils craignissent d'interrompre leur jouissance, mais ils redoutaient la nécessité d'une conversation. De quoi s'entretenir ? Quel sujet entamer qui fût capable de les intéresser et de mettre leurs âmes en contact ? Deux jours avant, ils ne se connaissaient point. Il ignorait tout de sa vie. Son passé, à lui, restait impénétrable. Et ils s'étonnaient eux-mêmes de se trouver ensemble dans ce coin de forêt, dans cette voiture, bouche contre bouche. Alors, ne sachant quelle parole prononcer, ils se baisaient. Ils se baisaient indéfiniment, comme s'ils eussent espéré surprendre ainsi un peu de leur existence, un peu de leur pensée. Lui marmottait de temps en temps « Oh, Lucie, ma Lucie, chère Lucie !» Elle, une seule fois, tant ce nom lui déplaisait, répliqua « Cher Amédée !» Il feignit un violent accès de gratitude. « Merci, mon adoré, merci de votre amour. Moi, je vous aime comme un fou. » Ses désirs devenaient impérieux. Il dégrafa son corsage. Elle ne se défendit pas, avide d'admiration. Mais la quittant soudain, d'un mouvement sec, il arrêta Bichon, inspecta rapidement les abords de la route, colla son œil à la lucarne de la capote et s'abattit à genoux en bredouillant Oh, ma Lucie, nous sommes seuls, seuls. Une stupeur la paralysa. Elle ne s'attendait point, en réalité, à cette tentative. Pourtant, l'idée ne lui vint pas d'une résistance. Elle s'abandonna. Une pile de cartons s'écroula sur elle. Le bec d'une canne lui meurtrissait les reins, puis Bichon, las de cette halte, se mit à trotter. Amédée jurait. Et tout cela lui sembla si comique qu'elle éclata d'un rire nerveux. Revenue de sa défaillance, Lucie sortit la tête hors de la voiture et respira longuement. À gauche, elle aperçut une borne kilométrique. Elle lut « Rouen, 6 kilomètres ». Au même moment, Richard tirait sa montre. « Christy, déjà 4 heures. Tu m'excuseras, chérie, je n'ai que le temps. » Il fouetta sa bête et l'on partit. L'étreinte ayant dissipé leur embarras, ils eurent une crise d'expansion. Il raconta des anecdotes de sa vie errante, des histoires de femmes, de bonnes grosses farces de paysans. Elle, les bras autour du bras de son amant, les mains jointes sur sa main, la joue sur son épaule, parla de son mariage. Et sans raison, par un besoin naturel, elle débita des mensonges. En toute sincérité, elle se plaignit du caractère odieux et des façons brutales de son mari. Puis elle décrivit les passions fabuleuses qu'elle avait inspirées, arrangea son aventure avec le mercier, et fit si bien que Richard se dit « Eh bien, vrai, moi qui me flattais d'être le premier, quelle matine !» À intervalles fixes, ils estimaient convenable de se donner des marques de leur affection. Ils échangeaient d'ardents baisers, et Amédée répétait « Ma Lucie, ma petite Lucie, comme je t'aime !» Ils se lançaient aussi dans des phrases d'amour en poulet qu'ils n'achevaient pas, ou bien se lamentaient sur les rigueurs du sort. « Hélas, je me prépare beaucoup de chagrin. Tu es mariée, mère de famille, sans compter que tu peux m'oublier, en aimer un autre. » « Et toi ? » répondit-elle. « Toi qui voyages, ne céderas-tu pas aux occasions, à l'entraînement ?» Ils gémirent, s'accordèrent une grande tristesse et se turent afin de la mieux savourer. Des hautes boisées les entouraient. Le soleil disparut. Une voix d'homme chanta que scandait le bruit d'une cognée. Des terres de labour étalaient leurs rectangles. Un paysan les salua. Ils approchaient de Marom, où ils devaient se séparer. Et Richard, loquace maintenant, exposait ses plans d'avenir et promettait de changer sa position, si lucrative qu'elle fût, pour un métier qui lui permit de résider à Rouen. « Je suis connu sur la place, j'ai l'habitude des affaires, la réussite est certaine, et, ajoutait-il finement, j'aurai un magasin à double entrée. » Il pérorait à tort et à travers, crevant de vanité auprès de sa maîtresse et supputant le relief que lui vaudrait cette liaison. Lucie l'écoutait, distraite. Le regardant, elle le jugea un peu commun, moins bien que Robert. Elle se demanda vraiment pourquoi elle l'avait accepté comme amant. Une gêne l'envahit. Elle eut tout à coup la sensation désagréable d'être en voiture, seule, avec un étranger. Le souvenir de ses caresses la laissait indifférente. Sa chair, n'ayant rien éprouvé, ne se rappelait rien et ne lui imposait pas cette tendresse lasse des gens assouvis. Et ce monsieur en chapeau haut de forme, en par-dessus noisette, le buste droit, la moustache régulière, la physionomie béate, l'importuna jusqu'à mouiller ses yeux de pleurs. Ils arrivèrent. Les adieux d'Amédée furent touchants. Lucie, crispée, y coupa court en sautant à terre. À peine entra Mouet, débarrassée de lui, elle eut une explosion de joie. Elle avait un amant. Durant le trajet, ses attitudes, ses sourires, son agitation évidente intriguèrent les voyageurs, de petits rentiers ou des boutiquiers de Marom. Elle descendit au bas du boulevard Cauchoise, et légère, la taille souple, elle se dirigea vers sa demeure en aspirant de fraîches bouffées d'air qu'elle exhalait ensuite avec satisfaction. En face de la préfecture, elle croisa Paul Bouju-Gavard. « Deux mots !» s'écria-t-elle haletante. « J'ai deux mots à te dire !» Elle se planta devant lui. « Regarde-moi, tu ne devines pas ?»« Non !» fit-il interdit. Alors, elle articula posément, fièrement, « Mon cher, aujourd'hui 7 mai, à 4 heures, en pleine forêt verte, à 6 kilomètres de Rouen, j'ai eu un amant. » Cet aveu calma son exaltation. Elle rentra chez elle, sereine et apaisée. En entendant des cris dans la chambre de l'enfant, elle s'y rendit. René pleurait. Elle le consola et le fit jouer quelques minutes, comme de coutume. Au dîner, elle mangea de bon appétit. Ses gestes étaient aisés, son maintien paisible, son visage franc. Mais un tel bonheur se dégageait de ses yeux, des trous de ses fossettes, de l'éclair de ses dents, de l'harmonie parfaite de ses mouvements, que Robert lui-même en fut imprégné. On servit le café de monsieur. Elle y trempait toujours un morceau de sucre. Il l'attira sur ses genoux et dit « C'est un plaisir de te voir !» Elle lui saisit la tête et riva ses yeux aux siens. Une chose la déroutait. Elle s'attendait à ce que son mari lui parût ridicule, et elle ne découvrait rien qui justifiât ses prévisions. Pourtant, quel bouleversement dans cette vie! Entre ce repas et le précédent, un fait s'était produit qui changeait irrévocablement cet homme en un homme nouveau. Il aurait dû ne pas être le même que jadis, du moins ne pas lui sembler tel. Mais malgré ses efforts et son envie, l'impression qu'elle recevait de lui ne différait pas de l'ancienne impression. À la fin, il l'interrogea. « Qu'est-ce que tu as à me lorgner ainsi ?» Elle réfléchit et prononça d'une voix convaincue. « Je suis heureuse !» Ils bavardèrent. Lucie causait avec gravité. Parfois, néanmoins, pour une boutade de Robert, pour un mot, il lui échappait un rire fou, saccadé, interminable. Elle suffoquait. Chalmain travaillant à son bureau, elle monta seule. Sa gaieté redoubla. Elle jetait ses affaires au hasard, sur les meubles, sur le tapis, au plafond, d'un bout à l'autre de la chambre. Son corset se suspendit à un candélabre. Sa chemise, en tampon, glissa derrière un fauteuil. Puis, soudain sérieuse, disposant sa glace à la lueur de plusieurs bougies, elle se contempla, selon son habitude. Cette fois, elle se trouva plus belle encore. Sa peau avait une blancheur inusitée, la ligne de ses jambes plus de moelleux, sa gorge plus d'ampleur. Elle examinait, elle palpait curieusement ce corps que gonflait le sang d'un étranger. Rien non plus n'indiquait une transformation. « Et cependant, se dit-elle, c'est comme Robert, il n'est plus le même. Son corps actuel et son corps de la veille étaient distincts l'un de l'autre. Une seconde avait suffi pour que s'opérât cette irréparable métamorphose. Et elle l'aimait aussi, ce corps neuf, ce corps d'amour, ce corps d'adultère, comme elle le proclama tout haut par une sorte de bravade. Elle se mit au lit, son ivresse persistait. Elle se répéta à diverses reprises « J'ai un amant ! Enfin j'ai un amant !» Cette phrase lui était d'une douceur ineffable. Pas un instant l'image de Richard n'assiégea son esprit. Un homme l'avait possédée, elle le savait, mais ne prêtait à cet homme qu'une attention secondaire. Les détails de l'acte consommé restaient vagues, ne l'occupaient pas comme la plupart des femmes qui recueillent pieusement l'histoire de leur chute. Seul l'intéressait le résultat de sa conduite. Elle avait un amant. Elle se sentit plus complète. La seconde phase de sa vie de femme s'ouvrait devant elle. À l'arrivée de Robert, elle feignit le sommeil. Il se coucha, lui baisa les cheveux, et ils s'endormirent côte à côte, la laine confondue, des coins de leur chair en contact dans l'intimité du lit nuptial. Le surlendemain, Lucie retirait de la poste restante une lettre d'Amédée. L'écriture était penchée, petite, régulière, composée des pleins et des déliés de rigueur, agrémentée d'enroulements et d'entortillements artistiques. Un paraphe compliqué, enchevêtré, hérissé, savant, encadrait une signature irréprochable. Le papier portait comme en tête « Amédée Richard fils, représentant de la maison Gouget, Belavoine frère et Rameau. » Elle lut. « Mon adorée Lucie, je viens d'enlever la fameuse affaire dont je t'ai entretenue. Et tandis qu'on attelle Bichon, j'en profite pour t'assurer encore de mon amour éternel. Quel serment de cœur hier au moment de l'adieu suprême. À tour de bras j'ai fouetté mon cheval, qui n'en pouvait mais, le malheureux. Et nous avons galopé jusqu'au bois de la Valette, à en perdre le souffle. Alors j'ai sangloté comme un enfant. Hélas, quand deux êtres s'aiment autant que nous, la destinée a-t-elle le droit de les séparer? Oh, ces affaires, quelle servitude! À Yvetot, j'ai passé une nuit très agitée. Le souvenir de ma Lucie me poursuivait, me brûlait. Puis, d'innombrables petites bêtes m'ont attaqué. Une, deux, trois, cinq, dix, des douzaines de ces insectes maudits se sont acharnés après moi. Jusqu'au matin, je me suis retournée, trémoussée comme un pauvre diable. Aussi, j'ai flanqué à l'aubergiste une de ces semonces dont il se rappellera. Allons, adieu ma femme chérie, ma voiture m'attend. Je me fais une fête de m'y installer, de courir la campagne en pensant à toi, dans cet espace où je t'ai eu, où tu t'es donné à celui qui t'aime. Mon Dieu, quel souvenir! Ma plume tremble en traçant de telles lignes. Je vais faire Bolbec, Le Havre, Dieppe, etc. Je serai de retour à Rouen vers le 30 courant, et j'espère bien rattraper le temps perdu. En attendant, je t'envoie un million de baisers. Ton amant pour la vie, Amédée Richard fils. Lucie reçut encore une lettre, puis une autre, puis ce fut tout. Elle ne le revit jamais. Chapitre 2. Durant 3 jours, René languit, refusa de manger. Un matin, ses parents firent appeler leur docteur. Il ne put venir, étant malade. Ils patientèrent, mais l'état de l'enfant s'aggrava. Il eut des frissons, des vomissements, et Lucie, en l'absence de Robert, enjoignit à la bonne de chercher un médecin quelconque, au plus vite. La servante ramena un monsieur solennel, d'aspect ecclésiastique, de carrure solide, vêtu d'une longue lévite, les lèvres et le menton rasés. La mère lui raconta les débuts du malaise. Il découvrit sur le corps des plaques rouges et irrégulières et déclara « C'est une fièvre scarlatine ». Puis, sans répondre aux lamentations de Lucie, il prescrivit le régime à suivre, les précautions à garder et composa une ordonnance au bas de laquelle il mit son nom. Docteur Danègre. À cette alerte, toute la maternité de Lucie se réveilla. Elle passa 4 nuits au chevet du malade, puis 2 semaines enfermée, et ne consentit à sortir que sur la prière de Chalmain. Madame Bouju-Gavard en conçut pour elle une estime plus grande. Elle avoua sans détour à Robert « J'avais des craintes au sujet de Lucie. Elle négligeait son fils et ne surveillait pas assez son intérieur. Mais maintenant... » « Maintenant et toujours, » interrompit Chalmain, de ce ton grave, nuancé de respect, qu'il employait en parlant de sa femme. « Soyez tranquille, Lucie est une épouse et une mère sérieuse, et c'est du fond du cœur que je vous remercie. » Dans le monde, cet incident fut du meilleur effet. « Vous savez, cette pauvre dame Chalmain, son petit garçon est très mal, elle est au 100 coups. » La pitié qu'elle inspirait atténua le mécontentement qu'avait produit son manque d'égard vis-à-vis diverses personnes. Le docteur Danègre seconda puissamment les efforts de la jeune femme. Il venait à tout moment. Taciturne, il saluait d'un signe, s'asseyait auprès de l'enfant et l'observait de longues minutes. Puis il avançait d'une voix mesurée une opinion qui empruntait à cette sobriété de parole une importance décisive. Il avait en ville une clientèle peu nombreuse, mais fidèle. En général, son mutisme effrayait le malade. Il ignorait ou dédaignait les mots qui réconfortent, qui adoucissent la brûlure des plaies et font accepter l'ennui des convalescences. De plus, on lui reprochait de vivre à l'écart. On ne le voyait que seul, ce qui, en province, inquiète toujours. Lucie croyait aveuglément en lui. Cette confiance se manifestait même d'une manière si évidente que le docteur devint moins farouche. Outre ses diagnostics, il émit quelques principes sur la façon d'élever les enfants, quelques autres sur le traitement de la fièvre scarlatine, d'autres enfin sur les questions médicales qui se présentaient à eux. Madame Chalmin, flattée, l'esprit ailleurs, ripostait par des exclamations effarées. « Ah, vraiment ! Je ne me doutais pas de cela !» Ils établirent entre eux des rapports agréables. Leurs conversations perdirent souvent de leur caractère technique. Ils échangeaient des idées selon le gré des circonstances, avec abandon du côté de Lucie et réserve chez Danègre. Un jour, elle bavardait, assise devant lui, la taille ployée, les coudes sur ses genoux, le menton appuyé sur ses deux poings. Quand elle leva la tête, elle vit ses yeux, des yeux hagards, injectés de sang, qui fouillaient l'entrebâillement de son peignoir. Le lendemain, Lucie garda le lit. Robert conduisit le docteur auprès d'elle. Elle gémit. « Je suis patraque. J'ai de l'oppression. Une douleur lancinante au cœur. » Il dut céder aux instances de Robert et l'ausculter. Il couvrit d'une serviette la poitrine de la jeune femme, appliqua son oreille contre la toile et il commandait. « Toussez, respirez plus fort. » Lucie, tout en se conformant à ses injonctions, épiait sa voix et ses gestes pour y surprendre quelques tremblements. Mais, impassible, attentif à l'épreuve, il continuait, interrogeait, par de petits coups de son index recourbé, les différentes parties de la gorge. Ayant fait subir au dos la même opération, il conclut froidement « Vous n'avez rien, madame. »« Cependant, docteur, objecta Chalmin, elle souffre, il y a peut-être un remède. » Danègre ricana « Oui, il y en a un, s'habiller et sortir. » Lucie, vexée, lui témoigna désormais une indifférence hautaine, dont il ne se souciait pas. Il ne s'adressait que les paroles indispensables. L'état de René s'améliorant, il espaça ses visites. Un dîner d'intime marqua cette période. M. Bouju-Gavard, revenu définitivement de son ermitage, y parut. Mme Chalmin le combla de ses prévenances. Au salon, elle dit à Paul « Ça doit joliment t'assommer, le retour de ton père. Tu n'es pas aussi libre. » Il se récria. « Lui ? Ah, il ne me tracasse pas beaucoup. » « Que pouvait-il bien faire là-bas » insinua-t-elle. Il se pencha et cyniquement « Elle s'appelle Léontine. Elle a des cheveux blonds, 18 ans, et elle est blanchisseuse de son métier. » Grâce à une tactique savante, Lucie parvint à bloquer M. Bouju-Gavard dans un coin. « Vous vous êtes donc lassé de votre solitude ?» Il répondit carrément « Non, mais n'ayant plus à te craindre, je n'avais plus à rester. » « Je ne saisis pas, » fit-elle. Il la regarda, et d'un air calme, sans haine, sans provocation, « C'est pourtant bien clair. J'avais peur de toi. J'ai voulu me guérir. » La cure a été lente, difficile, Néanmoins, j'ai réussi. » Elle ressentit une violente contrariété. Son amour-propre n'admettait pas qu'un homme épris d'elle secouât ainsi son joug en quelques mois. Elle se contint et minauda. « Eh bien, tant mieux. Vrai, ça me chagrinait. Je préfère que nous redevenions bons amis comme autrefois. Nous nous reverrons souvent, n'est-ce pas ?» Il répliqua « Tant que tu voudras, maintenant. » De fait, un matin, il se présenta. Sa retraite l'avait rajeuni. Il portait haut sa tête blanche, au teint clair. Il s'enquit de René, se plaignit de l'hiver terrible qu'on avait traversé, et dont, plus qu'un autre, il avait subi la rigueur dans sa grande baraque mal close. Dépeignit la campagne sous la neige, se vanta d'une excursion aventureuse sur la Seine gelée, et tout cela, posément, avec une placidité qui exaspérait Lucie. Ensuite, il demanda « Et toi, tu ne t'es pas trop ennuyée ?»«
Je ne me suis jamais tant amusée, » s'exclama-t-elle.
« D'ailleurs, à vous, parrain, je n'ai rien à cacher. Figurez-vous qu'on m'a fait la cour. Ce que j'ai dû subir de déclarations et de tous les hommes, et partout, au bal comme en pleine rue. » Il eut un air enjoué. « Hé hé, ça prouve que je n'avais pas si mauvais goût. Et parmi ces messieurs, il n'en est pas un. »«
Qui sait ?» murmura-t-elle.
« Elle ment, » se dit-il un peu énervé. Il se renversa, croisa ses jambes et reprit la voix songeuse. « Quand je pense que jadis ton « qui sait » m'aurait retourné le cœur, comme j'étais fou et imbécile, et comme tout cela est loin. Je me souviens d'un matin semblable, je me croyais guéri déjà, et puis ton corps, que je devinais sous ton peignoir rose, m'a détraqué. Aujourd'hui, le peignoir est blanc, ton corps se dessine aussi nettement, et je n'ai rien, là, au cœur, pas un battement. Ah, je suis bien guérie. »
Madame Chalmin suffoquait.
« Vous, guérie ?»«
Radicalement, » scanda-t-il.
Alors une rage la souleva. D'un mouvement brusque, elle défit le bouton de son corsage, écarta l'étoffe, et, lui montrant sa poitrine, elle dit fièrement «
Guérie de cela, vous croyez ?»
Il poussa un cri d'extase et de détresse. Ses bras se tendirent vers l'adorable vision comme pour l'étreindre et aussi s'en défendre, et il se mit à pleurer, ainsi qu'un enfant, des larmes tristes qui suivaient le creux de ses rides. René, cependant, recouvrait des forces. Le docteur prescrivit une promenade en voiture. Lucie choisit comme but la forêt verte. En route, elle tenta de revivre les diverses étapes de sa chute, mais bien des détails s'étaient effacés, et elle s'étonna de la confusion de ses souvenirs. Il y avait très longtemps, lui semblait-il, des mois et des mois qu'elle n'avait considéré les poutres en X de cette ferme, entendu les aboiements de ce chien, remarqué le baiser de ces deux arbres là-haut. Elle ne parvint même pas à reconstituer la phrase que Richard avait prononcée lors de sa première caresse. Dans la forêt, après la maison du garde, sur ce chemin où leurs bouches s'étaient accolées, elle ne reconnut rien autour d'elle. Et elle eut un regret mélancolique de ne pouvoir donner à sa faute d'autres décors que la capote fuyante d'un cabriolet. Devant la borne kilométrique numéro 6, elle arrêta la voiture, s'assit au revers d'un talus et voulut se découvrir une émotion légitime. Mais elle ne put se rappeler que l'ardeur désespérante de Bichon et la colère grotesque d'Amédée. Et il lui fallut serrer les dents et fermer les poings pour dompter le rire déplacé qui grondait en elle.